Alors,
ouf, c'est fort ça.
On arrive à la fin de cette fameuse année 2019. Ça ne va pas échapper. Alors, quoi dire quand on prêche le dernier dimanche de l'année? C'est embêtant, hein? Bonne question. C'est pour ça que tu m'as filé le truc, c'est ça? Je préfère que ce soit moi. Bon, d'accord. Eh ben oui, parce que chacun a sa vision de l'année qu'il a vécue. D'abord, parce que chacun a vécu son année et elle est différente de celle de son voisin, évidemment. Et puis la lecture que nous avons des événements qui ont habité notre année est forcément différente d'un être à l'autre. Donc, comment dire quelque chose qui convienne à tous, sans parler de la projection qu'on fait naturellement sur l'année 2020. Que va-t-il se passer en 2020 pour moi, pour mon église, pour ma famille, pour le monde, pour... 2020, tiens, il y a des élections, enfin voilà, c'est enfin, souvent ce qu'on veut regarder, ou souvent le filtre ou le prisme qu'on essaye de mettre pour lire le passé et préparer l'avenir, ben, c'est bien compliqué. Et alors, je me suis simplement dit, revenons à l'essentiel, et je vais vous proposer une longue lecture d'un texte que j'aime beaucoup dans une des épîtres de l'apôtre Paul. Alors c'est sans doute une que j'ai beaucoup lue, parce que dans ma Bible, les pages fichent le camp, ça se décolle. Donc bon, voilà. C'est dans l'épître aux Éphésiens. Je vais proposer de faire quelque chose d'un peu, allez, je veux dire, interactif, le mot est peut-être un tout petit peu fort, mais on va faire une assez longue lecture de Éphésiens, tout le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors, ouais, je ne sais pas si c'est assez grand ce que j'ai mis, mais... Voilà. Donc, si ce n'est pas assez grand, ben, vous écoutez bien. Parce qu'après, je vais vous faire travailler, un petit peu. On va partager le travail. Non, ce que je voudrais, c'est que, peut-être après la lecture, ce ne sera pas chacun, parce que ça serait trop long, mais quelques-uns puissent nous dire le verset qui les a frappés. Qu'est-ce qui les frappe? Vous savez, c'est une habitude que certains ont, qu'on appelle la lectio divina, c'est cette lecture biblique qui consiste à lire le texte et se laisser vraiment pénétrer par le texte biblique. Avant d'y mettre nos commentaires, nos idées, nos explications théologiques ou autres, c'est se laisser vraiment gagner, imprégner par le texte biblique. Et je trouve que certains textes s'y prêtent peut-être mieux que d'autres ou pas, mais enfin, c'est en tout cas ma sensibilité. Et puis je ferai après quelques commentaires, comme ça, si personne n'a rien à dire, ça fait rien, il y aura quand même un petit quelque chose dans la prédication. Mais s'il y a beaucoup de choses à dire, eh ben, on écoutera ce que les uns et les autres ont à partager, et puis je raccourcirai mon propre commentaire, et ça n'est pas très grave. L'épître aux Éphésiens, j'ai lu quelque part qu'on a appelé ça le plus divin des écrits humains. L'épître aux Éphésiens contient énormément de choses, de vérités qui sont vraiment importantes. Alors je vous invite à lire ça avec moi. On y voit un peu là? Ah oui, c'est très bien comme ça. Ah, la technique, c'est bien. C'est dans la version de la colombe. Bon. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Accrochez-vous, ça c'est un peu compliqué ce qu'il dit, je donnerai quelques mots d'explication après. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants, entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour connaître toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Amen. Voilà un texte que vous avez ou j'ai sans doute lu et entendu un nombre incalculable de fois. Et en tout cas pour moi c'est un texte qui est plein de choses. Alors évidemment, on pourrait faire, je crois, toutes les prédications de l'année 2020 simplement à partir de ce chapitre 4, l'Épître aux Éphésiens, tellement il est riche, tellement il y a de choses à dire. Alors maintenant, voilà, simplement, qui veut commencer en me disant, moi, c'est ce verset-là qui me frappe. Et je vais faire la blague classique, c'est le premier qui est difficile, donc commençons par le deuxième, d'accord? Voilà. Bon. Allez, qu'est-ce qu'il y a, Vous n'avez rien entendu, je recommence la lecture, alors c'est bon. Attention. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Hein? Alors, on peut remonter, oui, mais alors, le problème, c'est que c'est long, donc ça ne tient pas tout sur une seule diapo, je crois, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qui a envie de... Nadine? Donc, ceux qui disent, parlez fort, hein, pour que... Voilà. Alors, vas-y.
Voilà. Verset 29. Si on sort de notre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et que nous montrons grâce à ceux qui l'entendent, ça va parler dans le sens de si on devait appliquer ce verset à
Tu veux dire que faut que je me taise là? On va écourter la prédication là. Mais oui, d'accord. Merci Nadine. C'est vrai que voilà, c'est la partie du chapitre où après avoir, on va dire, manié des concepts très, très élevés, on a des choses d'un concret déroutant, si j'ose dire. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, qu'il ne sorte aucune parole malsaine de votre bouche. Et pourtant, c'est tellement compliqué à mettre en œuvre. Ça peut être parfois tellement difficile. Et les mots que l'on utilise, que l'on emploie, peuvent blesser. Vous savez, il y a des tas de textes dans la Bible qui parlent de la langue comme étant le plus merveilleux des instruments, mais en même temps celui qui peut faire tellement de mal. Merci Nadine. Quelqu'un d'autre? Martine. Alors, au début?
Oui.
Alors, plutôt vers le chapitre 4. Vas-y. Tu as déjà prié dans ce sens-là tout à l'heure, et je crois que de toute façon, tout le monde a pu dire amen à ta prière. Supportez-vous les uns les autres avec amour, et c'est vrai, tiens, ici dans l'église, voilà, par exemple, mais c'est vrai aussi dans nos familles, c'est vrai dans tout un tas de milieux. On a besoin vraiment, je crois, de l'aide du Seigneur pour vivre, sans vivre non plus dans un monde de bisounours. Alors, faut ça aussi, c'est ça qui est. La vie chrétienne, c'est pas une vie éthérée, hors sol, qui est. Non, c'est la vraie vie, avec des fois on n'est pas d'accord, et donc on s'engueule, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se supporte pas avec amour, même si on n'est pas d'accord. Et c'est là que c'est des fois difficile de trouver l'équilibre. J'ai vu demain qui se levait là.
Moi, c'est qui? C'est celle dont on a attention. C'est celui-là qui lui a dit le prisonnier dans le Seigneur. C'était déjà un par rapport à ça, c'est que en tout ce qu'on fait dans la vie, si on n'a pas la main de Dieu et la capacité de faire nous, on est trop exposé aux difficultés de ce monde.
Alors, c'est sûr que c'est d'ailleurs des promesses que nous trouvons dans la Bible à plein d'endroits. Le Seigneur nous promet d'être avec nous, nous accompagner pour les bons jours et les mauvais jours. Et c'est vrai que l'apôtre Paul était en prison à l'époque où il écrit cet épître aux Éphésiens. Alors, il y a des hésitations à savoir est-ce qu'il était en prison à Rome vers les années 60 ou est-ce qu'il était en prison plutôt à Éphèse ou retenu avant d'aller vers d'autres étapes de ses procès plutôt dans les années 50. Mais en tout cas, effectivement, à cause de sa foi, il est en prison. Assez libre, semble-t-il. Il n'était pas maltraité, mais il n'était pas dans une situation normale. Et il a fait ça à cause de sa foi, oui. Et la vie est forcément en dents de scie. C'est notre vie à nous, elle est comme la vie de tous les êtres humains sur la Terre, avec des moments où les choses vont plutôt bien, et puis des moments où les circonstances sont plus compliquées à gérer, ou contraire même, ou avec vraiment des oppositions plus ou moins fortes, ou qu'on le ressent plus ou moins fortement. Mais voilà, ce texte nous dit, nous redit, je trouve, avec une profondeur et vraiment beaucoup d'éléments, et je vous inviterai bien sûr, après quand on aura terminé, le lire et le relire encore pour y percevoir tout ce qu'il y a à percevoir, toute l'aide du Seigneur. Nathalie? Et on l'a mentionné plusieurs fois dans la présidence pilotée par Francky. Et ce texte, je trouve, ce texte biblique se ramène plusieurs fois à la vérité centrale, à Christ. Toutes ces belles idées, toutes ces belles intentions, c'est peut-être le 1er janvier, alors on prend des bonnes résolutions pour l'année à venir, mais on est comme tout le monde, on les prend le 1er janvier, puis on les abandonne le 2 janvier, quoi. En tout cas, c'est souvent comme ça. Mais ce que ce texte nous rappelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tout accompli pour nous et qui est prêt à marcher avec nous pour permettre, pour nous donner la possibilité de faire ça. Alors on le fait petitement, on le fait plus ou moins bien, on progresse, on avance, on apprend. Je parle pour moi d'abord, hein, je me mets toujours en colère de temps en temps, vous inquiétez pas. Ça m'arrive d'avoir le sang chaud et de monter en pression un peu vite. Mais voilà, effectivement, c'est cette articulation. Comme Dieu vous a fait grâce en Christ, et comme le dernier verset, hein, de même, le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en parfum de bonne odeur, ben, c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés à donner nos vies pour en faire quelque chose de bien à la gloire du Seigneur. Et ça va se passer à la fois dans les grandes dimensions, c'est-à-dire notre perception de notre place par rapport à Dieu. Donc là, on est dans de la théologie, si on veut. Et puis ça va se traduire aussi dans les choses les plus simples. C'est la manière dont je réponds à quelqu'un qui me fait une queue de poisson en voiture, quoi. Enfin, c'est aussi basique que ça, Christine. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. Eh bien, c'est l'occasion de commenter un peu cette partie un peu compliquée du chapitre 4. Hein, l'apôtre dit, voilà, c'est à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et je pense que les deux versets qui suivent, dans son lien, c'est pour expliquer quelle était l'ampleur de la mesure du don de Christ. Et Christ, il a accepté d'aller dans la mort et de descendre dans les enfers. Il a accepté d'aller jusqu'au bout du don de lui-même. Et c'est ça la mesure du don de Christ. C'est-à-dire que c'est une mesure qui n'a pas de mesure. Je pense que c'est ça que signifient ces versets 8 et 9. Hein, c'est pourquoi il est dit, en citant un texte dans l'Ancien Testament, il est monté, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes, mais s'il est monté au ciel, c'est aussi qu'il était descendu avant. Voilà ce que dit l'apôtre Paul là. Il dit, la mesure du don de Christ, c'est qu'il n'y a pas de mesure. Et de la même manière, à chacun de nous, la grâce est donnée, non pas en comptant ou en calculant, mais elle est donnée sans aucune mesure. Nous sommes tous revêtus ou inondés, si je ne sais pas quel est le mot qui conviendrait le mieux, de la grâce de Dieu. C'est une grâce qui est totale, absolue, sans limite, sans aucune limite. De même que Christ s'est donné sans aucune limite, il n'a rien gardé pour lui. Hein, il y a le texte célèbre de Philippiens où disant il était semblable à Dieu et pourtant il n'a rien gardé tout ça, mais il a accepté de devenir semblable à un homme sur la terre et vivre une vie pas glorieuse et qui s'est terminée de façon encore moins glorieuse. Jésus a accepté tout cela, c'est pour dire la mesure du don qu'il a fait de lui-même. Et de la même manière, il est prêt à nous donner absolument tout ce dont nous avons besoin. Et alors les exemples qui sont donnés ensuite, hein, bon, c'est des exemples, par exemple, dans la construction de l'Église, où il dit il a donné des pasteurs, il a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc. Et puis il a donné à chacun d'entre nous d'accomplir petitement chacun de ces petits gestes de la vie de tous les jours qui fait que ben, on va petit à petit se rapprocher d'un certain idéal, si j'ose dire. Enfin, le mot n'est pas très élégant, mais c'est un petit peu ça que ça veut dire. Quelqu'un d'autre? Oui. Comment? Ne donnez pas accès au diable. Voilà. Alors ça, c'est, voilà, ce sont aussi des versets dans le concret de nos vies, où parfois on peut, se croyant fort, se mettre en danger. Et ça, j'exhorte chacun d'entre nous à réfléchir à cela. On se croit plus fort que les autres, plus fort que ce qui nous entoure. C'est vrai, peut-être en particulier pour les jeunes. On a l'impression qu'on peut se frotter à des trucs qui brûlent un peu. Mais c'est bon, moi je vais tenir. Attention, ne donnons pas accès à quelque chose qui peut nous amener trop loin. Mais c'est vrai aussi pour les vieux comme moi, hein, je n'en étais pas. C'est quand même pas tout à fait que les jeunes, rassure-toi. C'est pas que pour toi, c'est pour moi aussi. Je voyais qu'il se couille la tête là. Quelqu'un d'autre qui avait. Ah oui, vas-y.
Alors, c'est
verset 30.
La plupart des
cette notion de, je trouve que ce qui est intéressant, là, effectivement, c'est tout à fait ce que tu dis là, mais cette notion d'attrister le Saint-Esprit, ça surprend un peu, hein, on se dit, attends, Dieu, qu'est-ce que ma petite existence, ou mes petits défauts, ou les petits manquements que j'ai, en quoi ça peut l'attrister, il est au-dessus de tout ça, mais non, Dieu, par l'Esprit qu'il met en nous, veut avoir avec chacun de nous une proximité, une proximité, c'est ça, qui est de tous les instants. Et chaque fois que nous sommes à côté, c'est comme quand un être cher à côté de nous fait un truc qui nous fait du mal. On ne va pas réagir forcément, on ne va pas le clouer, le fusiller, etc. Mais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et c'est vrai que c'est aussi un encouragement pour nous à continuer à lire dans la parole de Dieu, à essayer de comprendre et de voir qu'est-ce que nous devons, de quelle manière nous devons mettre en application toutes ces grandes vérités auxquelles nous croyons. Oui.
Les enfants bien aimés. Donc, les parents, bien enfants bien aimés, celui qui écoute et qui sait ce que le père ou la mère a demandé donc la parole, c'est-à-dire de s'approprier cette parole et d'essayer de rester dans l'air.
Eh bien, je trouve que cette façon de traduire ce verset est très intéressante parce que si on dit imitateur de Dieu, il faut déjà qu'on s'imagine comment est Dieu, quoi. Parce qu'avant d'imiter, c'est... Or Dieu, il est éternel, il est immense, enfin, il est infiniment au-dessus de ce qu'on est. Par contre, le « comme des enfants bien-aimés », c'est effectivement... Imitateur de Dieu, c'est comme dans la relation, effectivement, parent-enfant, où quand les choses se passent bien, on va dire, les enfants cherchent à imiter les parents, contrer aussi de temps en temps. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre période de la vie. Mais effectivement... Être les imitateurs de Dieu, si on reste à cette phrase-là, on se dit, j'y arriverai jamais, quoi. Pas possible. Comment je peux imiter celui qui a tout créé? Comment je peux imiter celui qui a tout donné? Celui qui est tout en tout, c'est partout. Mais c'est être imitateur comme les enfants bien-aimés qui cherchent à faire plaisir ou en tout cas à ressembler quelque peu à celui-là. Allez, d'autres, peut-être? Encore une ou deux prises de parole, le président, Dominique. Donc on a bien fait de lire tout le chapitre 15. C'est ça. Et c'est ça se raccorde, on va dire. Ouais, d'accord.
Et il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. En fait, je me posais la question. Jésus leur a dit, il y a un seul troupeau, un seul berger. Je me dis, est-ce que je réalise vraiment ce que ça veut dire que cette histoire au singulier? On a plein de dénominations, on fait un mur et tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour briser ces murs qu'on construit, alors qu'à la base, la vision initiale du Jésus, c'était de dire un seul.
Et en fait, je n'ai pas d'explication définitive, hein, je ne veux pas croire ça, mais il y a plusieurs. Ici, là, on, je ne sais plus combien on représente de familles différentes. Chacune de nos familles vit sa vie, développe sa propre microculture, si j'ose dire, hein, la manière dont on fait ceci ou cela, dont on préfère telle ou telle façon de manger, de se réjouir de je sais pas quoi, enfin de toutes les choses qui font la vie familiale. Néanmoins, quand on est ici tous ensemble, on va au-delà de cela parce qu'on veut se rattacher à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Christ, comme ça a été dit plusieurs fois là. Pour moi, il y a un petit peu de ça. Alors évidemment, il y a des fois dans les familles, et même dans l'Église, des bagarres. Et des gens qui se fightent. Hein, et voilà, on en a connu à l'Église de Vendeur, et il y en a un peu partout. Donc pour moi, tu vois, il y a un petit peu cette image-là. C'est bien sûr l'idéal, l'image, c'est que c'est cette unité parfaite. Mais pourquoi cette unité parfaite? Pas pour faire l'unité simplement, mais parce que la racine est la même pour tout le monde. Et c'est ça qui me paraît important. Ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a des dénominations et qui sont souvent mises en avant parce que culturellement, on a du mal à dépasser ces limites qu'on se fixe là. Allez, une dernière et puis on arrête.
Ah.
Verset 24 pour toi.
Tu parlais du nouvel an et bien d'avoir
Et en tout cas, c'est effectivement, c'est comme ça qu'on terminera tout à l'heure. C'est en souhaitant que chacun de ces versets puisse nous animer, nous conduire, enfin nous remplir pendant toute l'année. Alors voilà, bon, quelques commentaires pour terminer, hein, parce que sinon le temps passe et puis Francky va commencer à faire les gros yeux. Mais merci en tout cas pour chacune de vos participations et voilà, je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à dire. Comme j'ai dit, c'est pour moi ces textes-là qui sont comme une vraie musique divine presque dans ma tête, tellement souvent je les ai lus et entendus et commentés. Je souhaite que ça fasse la même chose pour vous. Et puis à un moment, c'est tel verset qui nous frappe parce qu'on est préoccupé ou intéressé par tel ou tel sujet. Puis à d'autres moments, c'est autre chose. Il y a des fois, c'est très concret. Puis d'autres fois, c'est très élevé parce que c'est de la théologie ou je sais pas quoi, etc. Parfois, c'est dans la confrontation avec d'autres systèmes de pensée, hein, d'autres églises, par exemple, parce que ces textes-là ont servi ô combien à se bagarrer ou se réconcilier entre dénominations chrétiennes. Hein. On pourrait citer des tas d'exemples et j'y ai participé comme bien d'autres, certainement. Et puis à d'autres moments, c'est des choses tout à fait concrètes. Mais en tout cas, cette épître aux Éphésiens, c'est vraiment un merveilleux résumé de ce que nous croyons. Il y a quelques années, je crois, j'avais prêché une fois à partir de, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre de Watchman Nee, et c'était aussi l'épître aux Éphésiens, décidément, j'en connais qu'une dans la Bible, on dirait, mais bon, en tout cas celle-là m'est chère, où il dit « être assis, marcher et tenir ferme », et c'est effectivement au chapitre 2, il faut que nous soyons assis en Christ, c'est-à-dire solides, fondés, enracinés. À partir de là, dit l'apôtre Paul, et c'était ce qui était repris dans ce petit livre, que je veux bien prêter à quelqu'un si ça vous dit, à ce moment-là, nous pouvons marcher. Mais pour pouvoir marcher, il faut avoir des bonnes bases, être solide. Et puis, nous pourrons tenir ferme et jusqu'au bout, même quand il y a des circonstances compliquées. Et personne d'entre nous ne sait de quoi 2020 est fait. Et il y aura peut-être des choses difficiles pour nous, pour l'Église, pour nos familles, pour le monde. Nous ne savons pas cela. Mais restons assis, solidement ancrés en celui qui est la base. Et ce texte que nous avons lu, voilà, je trouve formidable parce qu'il articule, comme on l'a dit à plusieurs reprises avec vos commentaires, la théorie et la pratique. Des choses très profondes, très élaborées, très... voilà, il y a un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Là, on est dans quelque chose de profond. Et puis, que celui qui dérobe ne dérobe plus, quoi. Là, on redevient. Ou bien alors qu'il n'y ait pas de paroles malsaines ou je ne sais pas ce qui avait été commenté. Et nous sommes vraiment appelés à vivre tout cela au jour le jour. Et c'est un peu ça que je veux vous laisser pour la fin de l'année 2019 et puis avec l'ouverture de l'année 2020, que véritablement nous ayons à cœur de plonger nos yeux dans la parole de Dieu. Alors, vous avez remarqué le premier des thèmes qui était cité, c'était l'unité, hein, c'était le dernier commentaire d'Élisée. Il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule humanité, nous sommes tous créatures de Dieu. Voilà, tout cela, c'est comme ça que Dieu a voulu. Et puis les hommes, les êtres humains sont les êtres humains. Et ils créent des barrières, des limites, des frontières, de couleurs, d'origine, de culture, de fortune, etc., etc., toutes ces choses-là. Et la question toujours à se poser, c'est est-ce que nous vivons cette unité malgré les différences qui existent, hein, voilà, certains sont plus fortunés que d'autres. Est-ce que pour autant, on est capable de trouver la véritable unité dans la prière et l'unité en celui qui nous a réunis, celui qui fait toute chose unique. Et c'est pour ça qu'il y a ces nombreux versets qui disent « Supportez-vous les uns les autres, soyez respectueux les uns avec les autres, etc. » Ben oui, parce que si on veut véritablement montrer l'unité en Christ, ben, il faut d'abord commencer par accepter que l'autre soit différent de moi. Voilà, Daniel est différent de moi quand il prêche. C'est pas les mêmes dessins qu'il met au tableau. Voilà, c'est tout. Des fois, on s'est un peu bagarré avec Daniel. Enfin, je me suis un peu bagarré avec lui parce qu'il est plus paisible que moi, je crois. Mais bon, je crois que voilà, on est réconciliés, hein ? N'est-ce pas ? Mais voilà, c'est compliqué. Je vous assure, c'est parfois difficile d'accepter des choses comme ça. Attends, Martin, on se verra après, voilà. Donc voilà, c'est hein, l'unité. Elle est effectivement essentielle. Ce n'est pas une unité de façade. Celle-là, elle n'a qu'une importance relative. Elle a une importance quand même. Hein. Je pense que les mouvements œcuméniques, etc., par rapport à la vision que le monde peut avoir de l'Église chrétienne, ont leur importance, mais on voit bien que ça ne résout pas tout. Par contre, l'unité entre deux êtres humains qui acceptent leurs différences et qui vont accepter de faire un bout de chemin ensemble, même si c'est pour dire, bah, finalement, toi, tu vas là et moi, je vais là, hein, c'est possible. Je pense que ce sont des éléments qui sont extrêmement importants, qu'il faut garder. Et vous avez vu que l'élément qui vient derrière, c'est que nous sommes en construction. Hein, il dit à un moment, c'est pour ça qu'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, etc., en vue d'arriver à quelque chose de parfait. Tu montres la photo ? Alors, est-ce que vous connaissez ce lieu-là ? Certains qui disent oui. Alors, c'est quoi ? C'est une église. Bon, d'accord, c'est pas trop bien ça. Hein ? C'est la Sagrada Familia à Barcelone. Pourquoi cette image ? C'est le monument le plus visité d'Espagne. Il y a plus de 3 millions de personnes qui la visitent chaque année. Et elle est en construction depuis 1882. Elle n'est jamais achevée. Et en fait, elle n'est jamais achevée en partie parce qu'elle n'avance qu'en fonction des dons des individus. Enfin, voilà, c'est simplement, ils récoltent des dons de privés sans aucune subvention officielle. Et puis, quand il y a un peu de sous, et hop, on monte d'un cran. Et puis, vous voyez que le projet de comment il s'appelait, l'architecte Güell, hein, c'est Gaudí, non, qu'est-ce que je dis ? C'est Gaudí, tout petit. Non, c'est le Parque Güell à Barcelone qui a été aussi décoré par Gaudí, excusez-moi, voilà. Mais c'est Gaudí, c'est un projet complètement fou. Mais peut-être que le projet de Dieu pour l'Église, c'est un projet complètement fou aussi, à vue humaine. Et c'est quelque chose qui est en construction perpétuelle. Et je trouve que cette construction, c'est une assez bonne image de ce que dit le texte ici. Voilà, on est équipé, il y a des choses, mais au fur et à mesure, l'Église se construit. Et très vraisemblablement, on sera bientôt en 2020. L'image qu'on peut se faire de ce que doit être l'Église en 2020 est très certainement différente de ce qu'elle était en 1200, je ne sais pas quoi, enfin n'importe quel siècle qui a précédé. Mais en fait, voilà, ceci, de tous les dons qui ont été faits, la façon dont le Seigneur nous a chacun équipés, c'est pour, en vue du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et ce jour-là, ce sera quand nous serons réunis avec le Seigneur, bien évidemment, parce que jusque-là, nous allons tous mettre des choses en travers qui vont empêcher que ce soit aussi parfaitement réalisé que ce que l'on dit là. Et donc, cette Église se construit depuis 2000 ans. Nous n'attendons pas la perfection, ni avant d'œuvre, ni ailleurs, mais si nous sommes, comme je disais tout à l'heure, assis en Christ, alors véritablement, nous allons pouvoir marcher et continuer à construire ensemble. Alors voilà, je vais m'arrêter bientôt. Je m'arrête d'ailleurs, je vais arrêter ici parce que ne me lâchez pas sur ces textes-là parce qu'on pourrait commenter, il y a tellement de choses magnifiques à dire et à échanger avec vous. Ce que je veux simplement dire, voilà, c'est vous avez vu que l'essentiel, c'est de revenir à la parole de Dieu. Ce que je souhaite et la prière que je fais pour chacun des membres de l'Église et pour l'Église dans son ensemble, c'est que nous sachions dans l'année 2020 encore mieux que nous l'avons fait en 2019, hein, toujours plus nous plonger dans la parole de Dieu, chercher là véritablement ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il attend de nous en 2020, pas de refaire ce qu'on a fait en 2019 ou pas de penser la même chose que ce qu'on a pensé en 2015 ou je ne sais pas quoi, c'est pas ça, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun de nous dans un monde où ça tourne, le vent souffle dans tous les sens. On ne s'est pas arrêté sur ces versets qui disaient aussi hein, que nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut aller à toute vitesse, et c'est à vitesse de tweet ou de je ne sais pas quoi qu'on a le droit de penser. S'arrêter pour réfléchir, c'est quasiment impossible dans le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, je pense que nous avons besoin de ça pour que nous soyons vraiment transformés, renouvelés dans notre intelligence, pour pouvoir comprendre individuellement et ensemble en Église, ce que le Seigneur attend de chacun de nous, ce pourquoi il nous a donné des capacités, ce pourquoi il a équipé les gens de notre Église. Voilà, que le Seigneur puisse vraiment nous accompagner pendant toute cette année 2020. Bonne année à tous. Et merci encore pour votre participation et d'avoir pu rentrer dans ce texte avec moi et continuer à le lire et à le méditer. Vous en tirerez toujours quelque chose de bon pour vous. Voilà.